voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Daniel Jeanne et Virginia Crespo.
À l'occasion de la journée des femmes sur Canal Academy, les académiciens racontent Eugénie, impératrice des Français.
Pour esquisser un portrait de cette impératrice, nous avons choisi 5 académiciens. Ernest Lavis, Maurice Paléologue, Prosper Mérimée, Octave Aubry et Georges Lacour-Gaillet. Les 4 premiers ont côtoyé ou rencontré l'impératrice. Les 2 autres ont récolté des témoignages de proches de l'impératrice et des documents d'époque. Tous, ils tentent de nous la rendre présente et attachante.
Nous procéderons un peu à la manière des impressionnistes, par petites touches, grâce aux descriptions, aux anecdotes, aux éclairages apportés par ces auteurs. Car comme l'écrit Octave Aubry dans la préface de son livre « L'impératrice Eugénie », publié en 1931 chez Fayard, « Dans l'histoire moderne, peu de figures ont reçu plus d'hommages et plus d'affronts. Si contrastée, si diverse, cette vie allongée sur un siècle a connu tous les soubresauts du sort. Femme du monde, muée en souveraine, espagnole devenue française, éprise du pouvoir et l'exerçant, puis précipitée à l'abîme sans rien perdre de sa fierté, elle a vu disparaître son fils dans la plus inutile aventure et pendant 50 ans a attendu la revanche qui vengea ses morts et lui permit de s'en aller en paix.
Quand Eugénie de Montijo, d'origine espagnole et fille cadette du comte et de la comtesse de Teba, épouse Napoléon III le 30 janvier 1853, elle a 26 ans révolue. Victor Hugo de Jersey, où il est exilé, s'écrit « L'aigle épouse une cocotte ».
Après la défaite de Sedan en septembre 1870, Eugénie se réfugie en Angleterre. L'empereur, son époux, meurt en Angleterre en janvier 1873. Son fils unique, Louis-Napoléon, le petit prince, est tué en 1879 par les Zoulous en Afrique du Sud à l'âge de 24 ans. Eugénie devait survivre 40 ans à ses douleurs. Elle meurt à Madrid en 1920. À l'âge de 94 ans.
La première émission proposée par Canal Academy évoquera les heures lumineuses du règne et la fête impériale. La seconde, qui sera diffusée fin mars, s'attachera davantage au revers de la politique impériale, aux périodes sombres, au deuil et à la vieillesse d'Eugénie. Pour commencer, écoutons le témoignage d'Ernest Lavis, nommé précepteur du prince impérial en 1868 par le ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy. Lavis était adjoint au précepteur principal, Augustin Filon, qui garda la haute main sur l'éducation du petit prince et le suivit en exil. Ernest Lavis est un historien, auteur des manuels Lavis, à l'intention des professeurs, des instituteurs et des élèves. Il est membre de l'Académie française de 1892 à 1922. Voici un extrait de la préface rédigée par Ernest Lavis pour le livre d'Augustin Filon intitulé « Souvenirs sur l'impératrice Eugénie » publié chez Kalman Lévy en 1889-1891.
L'impératrice était belle et sa beauté a été justement célébrée. En 1867, quand Filon la vit pour la première fois, le temps avait marqué sur elle les traces de son passage. Mais on admirait la grâce de toute sa personne, de ses saluts, de ses révérences, de son sourire, la fine ossature de son visage et le charme de ses yeux tout proches l'un de l'autre, si vivants, si vifs, où j'ai vu maintes fois succéder au sourire une large larme qui voilait le regard. Chez elle, aucune pause, aucun souci de l'effet. Les jours de cérémonie, sous le manteau impérial et le diadème de pierreries, elle menait sans effort l'air de majesté. Mais, dans la vie quotidienne, elle apparaissait plus simple et plus naturelle qu'aucune des femmes qui l'entouraient. Même les gens les plus timides se sentaient à l'aise avec elle après quelques minutes de conversation. L'impératrice parlait beaucoup, un peu bruyamment, et je l'ai entendu dire des choses qu'elle aurait beaucoup mieux fait de ne pas dire. Mais sa conversation intéressait par sa vivacité, par la promptitude à passer d'un sujet à un autre, par des traits amusants, par des sentences bien frappées comme celle-ci.
« Un coup d'État est un boulet qu'on traîne et qui finit par vous paralyser la jambe. En France, au commencement, on peut tout faire. Au bout d'un certain temps, on ne peut même plus se moucher. »
On s'apercevait vite, en l'écoutant, qu'elle tirait de son imagination maint détail de ses récits. Filon a dit qu'elle ne mentait jamais, et elle était certainement incapable d'un vrai mensonge en matière sérieuse. Mais elle brodait sur le réel de jolis dessins de sa façon. Un jour, elle me raconta la naissance du prince impérial. Une souveraine n'accouche pas comme une simple mortelle. Il ne faut pas que l'on puisse supposer que l'héritier de la couronne ait été apporté du dehors. Des témoins dûment qualifiés sont donc nécessaires. Sous l'ancienne monarchie, le cérémonial était consacré par l'usage. En vertu de ces actes, le 16 mars 1856, vers 3 heures du matin, les douleurs ayant commencé, le prince Napoléon, le prince Louis Murat, M. Achille Fould, ministre d'État de la Maison de l'Empereur, M. Abatucci, garde des Sceaux, furent introduits dans la chambre de Sa Majesté. L'impératrice m'a dit qu'elle se sentait observée, surtout par le monocle intense du prince Napoléon, naturellement préoccupé de savoir s'il allait rester l'héritier de la couronne impériale. L'enfant vint au monde. L'empereur se pencha vers l'impératrice qui, d'une voix faible et inquiète, lui demanda
« C'est une fille ?»
L'empereur répondit « Non ». Alors l'impératrice souriante
« C'est un garçon ».
Mais l'empereur, craignant une émotion trop vive, répondit encore « Non ».
« Mais alors qu'est-ce que c'est ?»
Le vrai, c'est sans doute que l'empereur, très ému, balbutia des paroles inintelligibles, l'imagination de l'impératrice les traduisit en langue claire. Elle comptait à merveille. Je me rappelle le récit d'un combat de cerfs, les cornes enchevêtrées, secouées à être brisées, les bêtes bramant leur fureur. À la fin, elles se tuaient l'une l'autre, et l'impératrice concluait.
Les cerfs savent ce que c'est que l'amour. Peut-être hommes primitifs le savaient aussi, mais les hommes d'aujourd'hui.
L'imagination de l'impératrice se complaisait dans le tragique. Voici quelques paroles d'elle que Filon a citées.
« Je suis venue au monde pendant un tremblement de terre. Ma mère accoucha sous une tente dans le jardin. Qu'est-ce que les anciens auraient dit d'un tel présage ? Ils auraient dit que je venais bouleverser le monde. »
En voici d'autres que j'ai entendues.
« En 1855, j'étais à Biarritz. Une nuit, je fus éveillée par le tocsin qui annonçait un incendie. Je me levais en hâte et j'allais faire la chaîne. Je sentis alors, pour la première fois, tressaillir mon enfant. L'idée me vint qu'il était destiné à mourir de mort violente. »
Au théâtre, elle aimait par-dessus tout la tragédie. Toute jeune et presque enfant encore, elle connut Rachel chez Madame de Montijo, sa mère, qui recevait volontiers des artistes. La grande actrice se prit d'une vive affection pour la famille espagnole. Elle donnait aux dames de Montijo des places pour aller l'entendre.
Elle nous voulait tout près d'elle, dans l'avant-scène du rez-de-chaussée à gauche. Notre émotion, notre enthousiasme, nos larmes l'inspiraient. Elle suivait, dans nos yeux dilatés, le crescendo de sa puissance tragique.
L'impératrice était éloquente. Je l'éprouvai un jour à mes dépens. C'était à Arnhemberg. Je lui demandai le matin de bien vouloir m'accorder quelques minutes d'entretien après le déjeuner. En sortant de table, elle me mena au pavillon de la reine Hortense et me fit asseoir près d'elle. Je lui dis alors que j'avais été fort ému, et que je n'étais pas le seul par la visite que le maréchal Bazaine, évadé de son île, lui avait faite récemment. Brusquement, elle se leva. Le sang lui montait à la tête.
« Vous ne savez donc pas que seul dans l'armée, le maréchal a gardé les aigles sur les drapeaux après le 4 septembre. Vous ne savez rien de cette histoire. »
Alors, elle me raconta ses relations avec Bazaine, à la trahison de qui elle n'a jamais voulu croire.
« Plus la guerre durerait, plus grandes seraient les exigences de l'ennemi. Des troubles révolutionnaires étaient à craindre. La guerre civile ajoutée à la guerre étrangère, c'était la fin des fins. Restait une armée, celle de Bazaine. » Armée héroïque, et l'ennemi savait bien qu'il ne la réduirait pas aisément à merci. Bismarck, très prudent, craignait la continuation de la guerre. Une intervention étrangère, sous forme de médiation, pouvait se produire. N'était-il pas possible d'espérer une paix moins dure que celle qui était à prévoir? On la devrait à l'armée de Metz. On lui devrait aussi à cette armée le maintien de l'ordre en France. À ce moment-là, une commune était à craindre, et vous savez ce qu'elle a été, la commune. Oui, j'ai cru servir la France. Si j'ai aussi espéré servir la dynastie, qui pourrait me le reprocher? Mais ce n'était pour moi qu'un intérêt secondaire. Si vous me croyez capable de préférer la dynastie à la France, c'est que vous ne me connaissez pas. »
Ses paroles se pressaient, véhémentes et sonores. Je l'écoutais respectueusement, sans un mot, ni un geste d'adhésion. Elle vit bien qu'elle ne me convainquait point. Elle conclut.
Ne me parlez plus jamais du maréchal Bazaine.
Je m'inclinai, elle s'assit, puis quelques secondes après, se releva et se dirigea vers la maison, sans m'inviter à la suivre. Je dois ajouter que le lendemain, l'orage parut dissipé. Au bonjour d'avant le déjeuner, elle me sourit avec sa grâce habituelle. L'impératrice avait l'esprit cultivé. Il ne s'agit pas d'une culture méthodique sur le plan prémédité et suivi. Elle était incapable d'un patient travail régulier, étant pour cela trop prime sautière. Elle lisait des journaux, mais aussi de sérieuses revues et des livres. Les sujets les plus divers l'intéressaient. Ses lectures étaient attentives. Elle notait ses réflexions sur des cahiers. Filon, qui les a lus, fait à leur propos une curieuse réflexion. L'impératrice différait en tout de la société dans laquelle les circonstances l'avaient placée. Elle n'avait rien du temps et du milieu où je l'ai connue. Autour d'elle, on riait ou l'on chantait, pendant qu'elle rêvait ou s'indignait. Il lui suffit de jeter les yeux sur les cahiers où elle consignait les réflexions nées de ses lectures ou les mots qui l'avaient frappée pour se rendre compte du manque absolu de sympathie entre elle et son entourage. Elle ne le comprenait pas. Ils ne l'ont jamais comprise. Cette femme, tant admirée, a été mal connue, quoiqu'elle ait vécu près de 20 ans sous l'ardente lumière que projette vers un trône la curiosité universelle. Ces lignes m'ont frappé. Souvent auprès d'elle, j'ai eu l'impression que l'impératrice était d'un autre temps, d'un autre pays. Dernier trait de ce caractère et non le moins important, l'impératrice disposait d'une grande force d'énergie. Par expérience, je sais que, dans de longues promenades à pied, elle fatiguait ceux qui l'accompagnaient sans ressentir aucune lassitude. Elle était née voyageuse sur la terre et sur la mer surtout, dont elle aimait l'immensité, le mouvement, la couleur et l'odeur. Elle est morte dans sa 96e année, devenue presque aveugle. Elle ne se résignait pas à l'obscurité. Depuis longtemps, elle désirait une opération. Les médecins de Paris n'en voulaient pas entendre parler parce qu'ils en jugeaient les suites dangereuses. Elle persista à la vouloir. Sa volonté demeurait ferme. Son intelligence n'était point affaiblie. Elle décida que la joie de retrouver la vue, de voir encore les êtres et les choses, valait le risque à courir. Les exemples d'une telle longévité, avec une telle énergie vitale persistante sont très rares.
Maurice, paléologue, diplomate, historien, essayiste français, élu à l'Académie française en 1922, a rencontré l'impératrice Eugénie à plusieurs reprises. Dans l'ouvrage « Les entretiens de l'impératrice Eugénie » publié en 1928 chez Plon, l'impératrice se souvient d'heures particulièrement exaltantes de son règne et elle relate elle-même quatre souvenirs brillants. Voici un extrait de ses entretiens de l'impératrice Eugénie avec Maurice, paléologue.
Parmi tant de belles heures qui ont jalonné votre règne, quelles furent les plus radieuses, les plus exaltantes, enfin je veux dire, surtout celles qui découvraient devant vous les plus séduisants mirages? Sans la moindre hésitation, elle répond.
Oh, d'abord, le baptême du prince impérial, le 14 juin 1856. Pendant le trajet des Tuileries à Notre-Dame, j'étais seule avec l'empereur, dans le carrosse pompeux de notre mariage. Le prince impérial, ses gouvernantes et sa nourrice occupaient la voiture précédente. C'était vers 6 heures du soir. Des maréchaux cavalcadaient à nos portières. On nous acclamait, frénétiquement. Le soleil, qui commençait à décliner, empourprait la rue de Rivoli. Nous défilions dans une lumière éblouissante. Près de moi, l'empereur restait silencieux, ne s'occupant qu'à saluer. Je ne lui disais rien non plus, parce qu'une allégresse ineffable me soulevait l'âme. Je me répétais intérieurement, c'est par cet enfant, c'est par mon fils que la dynastie napoléonienne s'enracinera définitivement sur la terre de France, comme s'y est implantée il y a 8 siècles la dynastie capétienne. C'est lui qui mettra le sceau définitif à l'œuvre de son père. Et pourtant, une voix secrète me chuchotait que les mêmes pompes officielles, les mêmes ovations populaires, les mêmes salves d'artillerie, les mêmes volées de cloches avaient célébré les baptêmes du dauphin Louis XVII, du roi de Rome, du duc de Bordeaux, du comte de Paris. Et qu'étaient-ils devenus, ces pauvres enfants? La prison, la mort, l'exil. Mais une autre voix plus forte me rassurait aussitôt, me dilatait le cœur, me remplissait de confiance et d'orgueil. À la fin de la cérémonie, lorsque l'empereur a élevé notre fils dans ses bras pour le montrer au peuple, mon émotion est devenue soudain si poignante que mes jambes se sont dérobées sous moi et que j'ai dû m'asseoir précipitamment. Après ce magnifique souvenir, le plus brillant que je conserve, c'est encore sous les voûtes de Notre-Dame qu'il s'encadre le 3 juillet 1859, au Te Deum pour notre victoire de Solferino. Vous vous rappelez que, pendant la guerre, l'empereur m'avait confié la régence. Je me suis donc rendue à Notre-Dame en qualité de régente, avec le prince impérial à ma gauche. Rien ne saurait vous décrire l'enthousiasme de la foule. Les acclamations faisaient un tel vacarme que nous passions devant les musiques militaires sans les entendre. Au retour, on se mit à nous cribler de fleurs. Elles résonnaient sur la cuirasse des sans-gardes comme une mitraille. Notre voiture en était pleine. Mon fils tressautait de joie, battait des mains, envoyait gentiment des baisers à la foule. Ce jour-là aussi, j'ai eu la certitude éclatante que Dieu réservait à mon enfant la mission glorieuse de couronner l'œuvre de son père.
Elle s'arrête un instant, les paupières closes, les joues très pâles, comme si toutes ses visions ranimées la remuaient jusqu'au tréfonds de l'âme. Puis, avec une sorte de gêne souriante, elle reprend.
La troisième fois où les mirages de l'avenir m'ont ébloui les yeux, j'ose à peine vous la confier, car elle vous paraîtra bien frivole. N'importe, je compte sur votre indulgence. À cette époque-là, je n'avais pas encore fait l'apprentissage du malheur. Voici donc ma troisième illusion prestigieuse. Vous savez que, pendant l'été de 1860, l'empereur a visité la Savoie et le comté de Nice qu'il venait d'annexer. Je l'accompagnais. Ce ne fut pas un voyage, mais une marche triomphale. L'empereur était comme transfiguré de bonheur. Il semblait vivre dans un rêve, dans un enchantement. Du coup, il avait oublié tous les reproches que la paix de Villafranca lui avait si injustement attirés. Je n'étais pas moins heureuse et transportée que lui. Or, le 29 août, les habitants d'Annecy avaient organisé, pour le soir de notre arrivée, une promenade sur le lac. Toute la flottille de barques légères, enguirlandées de lanternes multicolores, suivait notre gondole, drapée de pourpre et tirée par 20 rameurs. À l'arrière, on avait dressé une espèce de tillac où l'empereur et moi nous trônions majestueusement. Le ciel fourmillait d'étoiles. Des orchestres se mêlaient au cortège. Par moments, des feux de Bengale, des girandoles, des gerbes de fusées illuminaient tout le paysage. C'était magique. Comme nous venions de présider un dîner de gala, j'étais en robe décolletée, avec mon diadème et mes plus belles parures. Bien que la nuit fût chaude, j'avais jeté sur mes épaules un grand burnou écarlate, frangé d'or. Un instant, pour mieux jouir du spectacle, je me levai sur notre tillac. Aussitôt, de toutes les barques, on se mit à crier « Vive l'impératrice !» Je rayonnais. L'empereur me dit « Tu as l'air d'une dogaresse. » En effet, je me croyais sur le Bucentaure. Pour un peu, j'aurais jeté mon anneau dans le lac, ainsi que faisait le doge quand il présidait aux fiançailles de Venise et de l'Adriatique. Moi, je me figurais assister aux noces éternelles de la France et de l'Empire.
Sans arrêt de transition, elle poursuit.
Mon quatrième souvenir d'éblouissement, et c'est le dernier, vous étonnera un peu. En tout cas, vous le jugerez bien tardif. C'est le 18 novembre 1869, à l'inauguration du canal de Suez. 1869. Une triste année pour l'Empire. Au dehors, la Prusse, menaçante, l'Italie, ingrate, les autres puissances boudeuses, rancunières. Au dedans, l'inquiétude, la désaffection, une presse ignoble d'insolence et de mauvaise foi. Des grèves continuelles, des manifestations tumultueuses, le régime sapé de toutes parts. Ceux-là même qui avaient le plus d'intérêt au maintien de la dynastie se délectaient chaque semaine à lire la lanterne de Rochefort. Un vent de folie soufflait sur la France. Par surcroît, l'empereur, malade, sombre, découragé, ne voyait plus autour de lui que des présages funestes. Un jour, il me tendit une gazette de Rome, une gazette publiée sous la censure du Vatican. Et j'y lus quoi ? L'annonce de nos funérailles prochaines. L'inauguration solennelle du canal était fixée au 18 novembre, à 8h du matin, dans les eaux d'Ismaïlia. C'était le ciel d'Égypte, une féerie de lumière, une splendeur idéale. 50 navires pavoisés m'attendaient au seuil du lac Timsa. Mon yacht, l'Aigle, prit aussitôt la tête du cortège. Les yachts du Khédive, de l'empereur François-Joseph, du prince royal de Prusse, du prince Henri des Pays-Bas me suivaient, à moins d'une encablure. Le spectacle était d'une si prodigieuse magnificence et proclamait si hautement la grandeur du régime français que je ne me contenais plus. J'exultais. L'affreux cauchemar que j'avais emporté de Paris s'était dissipé, soudain, comme par l'effet d'une baguette magique. Alors, pour la dernière fois, j'ai cru qu'un grand avenir attendait mon fils et j'ai prié Dieu qu'il m'assistât dans la lourde tâche qui m'encombrait bientôt si la santé de l'empereur ne s'améliorait pas. Un an plus tard, nous étions détrônés.
Quels étaient les goûts de génie en matière de décoration, de vêtements ? Octave Aubry publie « L'impératrice Eugénie » en 1931 chez Artem Fayard et compagnie, éditeur. Octave Aubry, 1881-1946, est historien et romancier. Peu avant sa mort, il est élu à l'Académie française en février 1946. Octave Aubry décrit la souveraine en ses appartements.
Ce cabinet de travail qu'elle a disposé à son goût est la seule pièce où elle se sente chez soi, dans ce grand meublé des Tuileries. Mais, ajoute-t-elle en riant, j'en ai connu de plus médiocres. Les boiseries sont d'acajou, les murs tendus de gourgourans à raies vertes. De chaque côté de la cheminée de marbre rouge, chargée d'une laide statue, sont le portrait de la duchesse d'Albe et celui d'Anna Murat, devenue chère à Eugénie depuis le jour où bravement elle s'est déclarée pour elle. Sur un autre panneau, Napoléon III, effigie appliquée de Cabanel, épaisse tenture, meubles de style anglais, sièges de satin à capitons, beaucoup de bibelots sur les tables, les étagères, des palmiers nains, des fleurs artificielles, des photographies de toute taille. L'ensemble paraît lourd, mais sans prétention, intime. L'impératrice s'est ménagée un retrait derrière un paravent de verre garni de plantes vives. Elle s'assied là, dans un fauteuil bas, les pieds sur un tabouret, protégée du foyer par un écran de soie verte. Sur une petite table, à main gauche, elle a son buvard, son encrier, ses plumes d'oie, quelques reliures aux armes de Marie-Antoinette, une imitation de la vie de Jésus-Christ qui vient de la reine Hortense, et une miniature du comte de Montijo. Tout cela en ordre fixe. Eugénie est méticuleuse et quand quelque objet ou quelque meuble se trouve déplacé, elle s'en irrite, elle tense ses serviteurs. C'est l'heure à présent de la promenade, corvée encore mais nécessaire, car elle voudrait gagner Paris qui, l'émerveillement du mariage passé, prête l'oreille aux médisants et fronde. Elle monte les Champs-Élysées dans sa grande calèche à haut ressort, suivie d'un peloton de lanciers. Ses cheveux brillent sous le chapeau qu'entoure un voile mauve, vert ou blanc. Quelques cris s'élèvent « Vive l'impératrice ! Vive l'impératrice !» Elle s'incline, d'un mouvement gracieux, précise son sourire. La voiture gagne l'avenue de l'impératrice, file autour des lacs, puis revient vers les Tuileries. Par le soleil couchant qui change l'arc de triomphe en une porte d'ivoire ouvrant sur le ciel. Un peu de détente alors, d'intimité, quelques visiteurs privés, parfois encore des audiences. Ce métier est assommant, pense Eugénie, mais elle l'exerce avec conscience. Et souvent, le premier moment d'ennui passé, son rôle l'emporte et elle y trouve du plaisir. Il faut s'habiller maintenant pour le dîner et avec prestesse, car Eugénie attend toujours la dernière minute, mettant ainsi ses dames d'honneur plus lentes au désespoir. La table est dressée dans le salon Louis XIV, étincelant. 12-15 couverts d'habitude, jamais plus de 40. Le cercle se tient ensuite dans le salon d'Apollon, où le café est servi. L'empereur fait une patience, où s'entretient avec ses convives, très aimables et souvent très gais. L'impératrice cause à bâton rompu. Qu'un propos anime sa verbe, elle s'en saisit, saute sans réfléchir d'un sujet à l'autre, évoque des incidents de sa vie antérieure, de ses voyages, discute d'un fait ou d'une idée avec entrain, chaleur, même en phase. On retrouve alors Eugénie de Montijo, telle qu'elle était hier encore, sous des lambris moins illustres, dans un groupe d'amis moins différents. Et comme alors, il lui arrive de demander qu'on danse. Plaisir parfait du corps. Elle aime la danse en madrilène. Jeune fille, elle ne quittait les bals que lasse à s'évanouir. Le piano mécanique déroule une valse de Strauss. Ou bien Mademoiselle Thatcher enseigne les figures du quadrille des lanciers importés d'Angleterre et qui fait fureur. On finit par une farandole à travers les salons. À 11h, on prend le thé. L'empereur s'esquive et Eugénie, devant ses hôtes inclinés, plonge dans une révérence adressée à tous et où chacun croit trouver sa part. Ainsi des soirs ordinaires, mais deux fois chaque semaine au moins, le palais s'ouvre pour une réunion de gala. « Il faut que ta cour soit brillante », a dit Jérôme à son neveu. Le ci-devant roi de Westphalie, frivole jusqu'au cercueil, n'a pas tort. Pour l'Europe comme pour la France, un régime nouveau ne s'enracine que dans l'éclat. et le château qui a vu les réceptions tranquilles de Louis-Philippe, les veillées modiques de Marie-Amélie penchée sur sa broderie entre deux épouses d'officiers de la garde nationale, tandis que princes et princesses, recrues d'ennui pour ne pas s'endormir, se pinçaient dans l'ombre du salon, le château s'illumine à grand renfort de cire. Dîner, concerts, spectacles, bals, mettent sur les dents le corps diplomatique, la haute société administrative et militaire. Les marchands de Paris vendent à profusion galons, plumes et soies et à l'envi accrochent à leurs vitrines les armoiries impériales. Pour luxueuses que soient les fêtes, la cour demeure improvisée. L'archiduc Maximilien d'Autriche, venu à Paris en éclaireur, l'écrit à son frère François-Joseph. « Partout, on a l'impression du momentané. » Et Mérimée, quoique dignitaire, n'a pas confiance. Il chuchote « Ça durera ce que ça pourra. » Les plus séduisants appâts n'ont pas tenté la vieille aristocratie. Elle reste à l'écart du monde officiel. Les souverains n'auront autour d'eux, pendant tout le règne, que la famille Bonaparte, traversée de haine, les membres de leur maison, la noblesse du Premier Empire, quelques orléanistes ralliés, le personnel d'État, ministres, sénateurs, préfets, beaucoup d'officiers, grand nombre aussi d'étrangers, tant des ambassades que résidents ou voyageurs distingués, surtout anglais et espagnols. Nulle cour si bigarrée et cosmopolite. Aux soirées, Eugénie paraît dans des toilettes de faille, de satin, de moire, de dentelle, généreusement échancrées, qui font valoir ses épaules, sa gorge basse, chargée des joyaux de la couronne. Elle préfère les modes du XVIIIe siècle et voudrait les voir renaître. Grâce à elle, la crinoline s'écourte et prend plus de souplesse. Mes corsages, jupes, traînes, longtemps encore vont s'alourdir de rubans, de nœuds, de fleurs, de fausses perles. Eugénie en change souvent. Elle est coquette, elle se sait belle, et l'empereur prend plaisir à la savoir parer. Au reste, bien que des envieux censurent sa prodigalité, il est rare que le prix de ses robes du soir dépasse 1 000 francs. Beaucoup sont rajeunis au palais et elle les arbore à nouveau sans qu'on les reconnaisse. Pour ses souliers de satin blanc, si petits qu'aucune femme ne les chausserait, Eugénie ne les porte qu'une fois. Elle les envoie pour leur première communion aux orphelines des couvents dont elle s'est instituée la protectrice. Rompue dès sa jeunesse à la vie mondaine, ses réunions de cour ne lui pèsent pas. Elle reçoit moins en souveraine qu'en grande dame, allant de l'un à l'autre à sa fantaisie, se mêlant au groupe sans façon. D'instinct aristocrate, elle préfère les femmes nées aux dames, fagotées de ministres ou généraux parvenus. Pourtant, elle tâche à ne le point laisser voir. Servie par sa connaissance des milieux européens, elle déploie une amabilité particulière vis-à-vis du corps diplomatique. Elle a pris en faveur Hübner, ambassadeur de François-Joseph, homme fin, aux yeux durs. Eugénie lui parle librement, sans cacher sa sympathie pour l'Autriche. Elle ne s'occupe point d'affaires, mais en politique, elle a ses préférences déjà. La monarchie des Habsbourg l'attire par son maintien des traditions. Sa distinction vieillit. Souvent, au dîner, pour causer avec Hübner, elle le fait placer à sa droite. Elle s'enhardit un soir jusqu'à lui reprocher d'être trop répandue chez les royalistes. Elle lui dit
« Vous hantez beaucoup la société de nos ennemis. »«
Veuillez dire, madame, répond le diplomate, la société de mes amis anciens, qui sont au demeurant trop bien élevés pour faire de la politique dans les salons d'un ambassadeur. Mais, ajoute-t-il avec malice, on m'assure d'ailleurs que l'impératrice honore quelquefois madame de Lesserre de ses visites. Ce n'est pourtant pas une atmosphère impérialiste que sa majesté doit trouver là. »
C'est vrai, et je m'en fais gloire. Les de Lesserre étaient très bons pour moi, lorsque j'allais encore dans le monde. Je ne renie jamais mes amis.
Lui répond Eugénie. Que l'impératrice me permette de suivre donc son exemple.
C'est entendu.
Malgré tant de bonne volonté, d'efforts, même quand elle est lasse ou chagrine. L'impératrice Eugénie ne plaît pas à tous. Les hommes lui sont en général favorables. Maintes femmes relèvent ses travers, ses défauts, ses étourderies. Elles censurent son élégance, qu'elles déclarent ruineuse, tiennent sa réserve pour hauteur, son empressement pour hypocrisie, sa gaieté pour dévergondage. Sous la déférence des formes et la flatterie des attitudes, Eugénie devine les aigreurs et semble par moments découragée.
« Il est difficile de réussir dans ce pays »,
dira-t-elle un jour. Alors, et parfois sur une observation de l'empereur qui trouve la cour trop lâchée, pour offrir moins de prise aux critiques, elle décide de se renfermer dans une observance stricte de l'étiquette. Elle ne l'aime guère. Mais elle en vient à la trouver utile. La vie du palais oscille ainsi entre deux pôles, fantaisie et rigueur. Ainsi que Marie-Antoinette, dont l'histoire lui a frappé l'esprit au point de l'obséder, dont avec l'empereur, pendant leur lune de miel, elle a cherché les traces au petit Trianon, dont elle a, en pleurant, baisé la poignante lettre adressée à l'heure suprême à Madame Élisabeth, ainsi que la pauvre reine étrangère comme elle, belle et coquette, et qui aima tant s'amuser en son jeune temps. Eugénie, quand elle a par-dessus la tête des Tuileries, se risque à des fugues innocentes. Elle se mêle alors au badaud, à la foire du trône, va danser vêtue en petite bourgeoise à un bal champêtre à Fontainebleau. Mais la familiarité de certains mauvais sujets de la cour, tels le prince de Nassau, qui se déguise en ouvrier, en maçon un peu ivre, et la serre de trop près, l'effraie et la rejette aux divertissements moins osés. Ainsi, quand à l'entrée de l'été, elle réside à Fontainebleau ou à Saint-Cloud, ses déjeuners sur l'herbe, bucoliques, en robe à volant et chapeau haute forme, ou Mérimée, officier de la bouche de circonstance, impose des recettes culinaires atroces, empoisonne les plats d'ail et d'oignons crus pour provoquer les cris des dames du palais. L'impératrice rit beaucoup, l'empereur va et vient et fume sans rien dire.
Georges Lacour-Gaillet dans L'impératrice Eugénie, publié aux éditions Albert Morancé en 1925, fait, suivant ses propres termes, une esquisse rapide de la vie et du rôle de l'impératrice Eugénie. Mais une esquisse qui s'est efforcée d'être complète en exposant ce caractère de femme et son action dans ses manifestations diverses. Une esquisse qui a entendu demeurer d'un bout à l'autre dans le domaine de l'histoire impartiale et véridique. Georges Lacour-Gaillet est un historien, né en 1856 à Marseille, mort à Paris en 1935. Il fut élu en 1911 à l'Académie des sciences morales et politiques dans la section Histoire générale.
Ce qu'on pouvait apprécier en elle, c'était un goût marqué pour les choses de l'esprit, une curiosité naturelle de connaître, une érudition peu commune chez une femme. Elle aimait beaucoup à lire, surtout les ouvrages d'histoire, de philosophie, de science. Elle en faisait des résumés pour elle-même. La fantaisie lui était venue, rapporte Jules Simon, une noble fantaisie et bien digne du rang qu'elle occupait, de se faire enseigner l'histoire de France. Elle demanda un maître à M. Duruy, qui lui désigna Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges était indépendant. Cette indépendance ne l'empêcha pas de réussir. L'impératrice, et c'est un hommage à lui rendre, goûta beaucoup les leçons du jeune maître. Ces leçons se prenaient dans la bibliothèque des Tuileries, devant l'embrasure d'une large fenêtre. L'auteur de la Cité antique, en habit noir, commença ses conférences par un tableau des sociétés primitives, en particulier de la vieille civilisation égyptienne. Son auditoire se composait de 5 ou 6 femmes, ou jeunes filles, groupées autour de l'impératrice. L'empereur assista à quelques-unes de ses leçons. Pour ceux qui ont connu la probité scientifique de Fustel de Coulanges, il est certain que la nature de l'auditoire n'enlevait rien au sérieux et à l'autorité de sa parole. Victor Cousin publiait alors, de 1853 à 1865, Ses études sur les grandes dames et la société française au milieu du XVIIe siècle. Il les adressa à l'impératrice. Elle l'en remercia par une lettre qui fut une des dernières joies du grand écrivain et que Mérimée, au dire de Filon, trouvait très jolie. Sur les listes des invités de Compiègne, à côté des noms des savants, des philosophes, des artistes, on peut relever les noms de presque tous les écrivains de l'époque. Augier, Vigny, Sandeau, Arsène Housset, Flaubert, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Ponsard, Sardou, Abou. Mais parmi ces invités, deux avaient les sympathies littéraires de l'impératrice, Mérimée et Feuillet. Le premier bénéficiait certainement à ses yeux de ses souvenirs d'enfance. Elle goûtait, d'autre part, l'habileté avec laquelle il savait trouver dans un petit fait la matière de tout un récit, comme elle goûtait le mélange de précision et d'ironie dans tout ce qui sortait de sa plume. Un soir, à Saint-Cloud, pendant l'été de 1869, elle se fit lire par son auteur favori la nouvelle intitulée « Lochis », la dernière qu'il ait écrite, et elle y prit un vif plaisir. Pour Octave Feuillet, son sentimentalisme de bon ton et les aventures de ses héroïnes convenaient aux tendances de l'esprit de l'impératrice, c'est-à-dire une manière de sentir, malgré tout, un peu bourgeoise, le goût des épisodes romanesques, comme aussi l'admiration pour les personnages qui finissent en beauté. Dans la vie de société, l'impératrice avait une qualité précieuse pour une femme de son rang. Elle causait d'une manière fort attachante. L'impératrice apportait dans sa causerie une sorte de passion. Ses intimes voyaient se succéder en quelques instants, sur les traits mobiles de sa physionomie, les sentiments les plus divers, la joie, la colère, l'admiration, le mépris et, avant tout, un extrême besoin d'activité intellectuelle. Elle posait autour d'elle question sur question, et quand la réponse était à son goût, c'était une expression de contentement qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. Car dans le cadre de l'intimité où elle n'avait pas à jouer au personnage officiel, elle était très volontiers en dehors. L'impératrice avait-elle des goûts artistiques ? On peut citer à cet égard quelques témoignages en sa faveur. À vrai dire, il ne semble pas que cela ait été le meilleur côté de son esprit. Si elle connaissait la musique, elle ne l'aimait pas. Nos opéras comiques lui paraissaient un genre assez insipide.
Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un doux rêve d'amour. La nuit lui prête.
La nuit lui prête
son mystère.
Quand on commence à s'intéresser à ce qu'ils disent, ils se mettent à chanter. Et quand on commence à s'intéresser à ce qu'ils chantent, ils se mettent à parler. Un jour, en Angleterre, la musique d'un régiment de Highlanders joua en son honneur, partant pour la Syrie. Elle crut que c'était God Save the Queen. Quand on lui eut signalé son erreur, elle fut au regret de n'avoir pas remercié les musiciens qui avaient joué à son attention l'air favori de la reine Hortense. Faut-il en conclure qu'elle était incapable de distinguer un air d'un autre ? Ne peut-on admettre une distraction ? Pendant 18 ans d'Empire, ses oreilles avaient dû être faites à l'air du beau du noir. Oh, ma mère, disait Napoléon III, qui entendait à tout propos ce morceau, vous ne savez pas ce que vous avez fait le jour où vous avez composé l'air de la reine Hortense. Le dessin avait fait partie de son éducation de jeune fille. Elle avait une certaine habileté dans l'aquarelle. Elle maniait adroitement le crayon, paraît-il, si bien qu'il lui prit fantaisie de concourir incognito pour les projets du nouvel opéra en 1861. Elle demanda au ministre d'État, qui était dans la confidence, de lui envoyer un jeune architecte pour traduire en architecture son mauvais croquis. Il ne semble pas que cette fantaisie anonyme ait jamais retenu l'attention du jury. Le projet de Charles Garnier fut primé. L'architecte fut invité à venir montrer à l'empereur et à l'impératrice les plans qu'il avait proposés pour l'opéra à construire. L'impératrice, était-ce par jalousie, ne les trouva pas à son goût et ne s'en cacha pas.
« Qu'est-ce que ce style-là ? Ce n'est pas un style. Ce n'est pas du grec, ni du Louis XV, ni du Louis XVI. »
L'artiste, assez vexé, lui répondit « Non, non, ces styles-là ont fait leur temps. C'est du Napoléon III, et vous vous plaignez. » Alors, d'une épaisse moustache, à voix basse, sortirent ces mots à l'adresse du malheureux architecte. « Ne vous tourmentez pas, elle n'y connaît rien du tout. »
Né en 1803 à Paris, Prosper Mérimée est l'auteur de romans et de nouvelles comme Matteo Falcon, La Vénus d'Ille, Colomba, Carmen. En 1866, il dédie à l'impératrice sa nouvelle « La chambre bleue ». Il n'aime, dit-il, de l'histoire que les anecdotes. Il sera inspecteur général des monuments historiques et à ce titre fera de nombreux déplacements en France et à l'étranger. Il entre à l'Académie française en 1844. Sur l'insistance de l'impératrice, il acceptera à 50 ans un poste de sénateur. Dans sa lettre du 28 avril 1860, Prosper Mérimée s'adresse ainsi à la mère d'Eugénie, la comtesse de Montiro.
« Chère comtesse, j'ai reçu hier votre lettre du vin, qui me paraît être un peu amusée sur la route. Je veux vous parler de la fête donnée chez vous où vous manquiez beaucoup. En avant de votre maison et du côté de l'avenue, on avait fait une galerie en bois. Derrière la maison, dans le jardin, une immense aile à manger, où l'on descendait par des escaliers. » Tout autour, une galerie qui pourtournait la salle. Quand à 2 heures on a ouvert les portes, le coup d'œil était magique. Surtout quand les salles, les escaliers et les galeries ont été couverts de femmes en costumes brillants et tout cela inondé de lumière électrique. Vous savez qu'il y avait une entrée de 16 femmes représentant les 4 éléments. Elles étaient presque toutes très jolies, très décolletées et avec des jupes fort courtes. Madame de Labédoyère et Mademoiselle Erazo étaient à croquer. Seulement, les naïades étaient poudrées avec des paillettes d'argent qui, tombant sur leurs épaules, ressemblaient à des gouttes d'eau. Les mauvaises vues comme la mienne les croyaient trempées de sueur et on avait envie de les bouchonner comme des chevaux de course. La princesse Walewska avait beaucoup de perles et de diamants très beaux. Madame Bourgoin était en Madame Polichinelle. La princesse Mathilde en nubienne peinte couleur de bistre, si bien que personne ne la reconnaissait. La princesse Anna, qui était restée avec la couleur de sa peau, et qui en montrait beaucoup, aurait donné de l'appétit à un ogre repu. La fille cadette de Lord Cowley était en muse, ou grâce, ou je ne sais quoi, excessivement belle, mais ayant un maillot sur l'estomac, ce qui faisait demander pourquoi elle exposait tant de choses et pourquoi elle les enveloppait de façon à ce qu'on ne pouvait rien vérifier. Il m'a semblé qu'en général, on montrait bien des choses, surtout les pieds et le bas des jambes, qu'on n'avait pas vus depuis 1825, produisaient beaucoup d'impressions. Dans les valses, on constatait la présence ou l'absence des mollets. Malheureusement, il y avait trop de monde pour qu'on pût choisir le point de vue.
L'académicien Octave Aubry écrit: la cour passait les premières semaines d'automne à Biarritz, où Eugénie avait fait construire une grande villa décorée de son nom et qui tenait à la fois de la gare et de l'établissement thermal. Octobre la voyait à Fontainebleau ou à Saint-Cloud. Mais dès les premiers jours de novembre, la maison impériale se transportait à Compiègne. Napoléon s'y plaisait. Eugénie goûtait aussi Compiègne pour sa liberté plus grande, la chasse, les longues courses en forêt. Outre les hôtes royaux ou princiers qu'elle devait recevoir, elle avait imaginé d'inviter par série les personnages marquants de l'Empire, l'aristocratie étrangère, enfin les savants, les écrivains, les artistes, que l'adresse, plus encore que l'inclination, lui conseillait de rattacher au régime. Composer ces séries n'était pas facile. Mérimée, dans ses lettres à la comtesse de Montijo, la mère d'Eugénie, raconte un séjour à Compiègne.
Paris, 8 décembre 1858. Chère comtesse, je viens de passer 3 semaines à Compiègne. L'impératrice était non seulement en parfaite santé, mais plus gaie et plus animée que je ne l'avais vue depuis longtemps. Elle a fait avec l'empereur des courses à pied de plus de 2 lieues, sans en paraître le moins du monde fatigué. Le prince impérial est fort et gaillard. Il ressemble singulièrement à sa mère, avec un petit air de famille de l'oncle, surtout dans le bas du visage. J'ai remarqué qu'on l'élevait bien, c'est-à-dire en l'avertissant des dangers et en lui permettant d'en faire d'innocentes expériences qui valent mieux que les plus longs sermons. Ainsi, on l'a laissé constater par une petite brûlure que la flamme d'une bougie ne valait rien à manier et que le parquet d'une chambre était moins doux qu'un coussin. C'est ainsi qu'on m'a élevé, et si je n'avais pas reçu de la nature un grand fond de maladresse, je serais devenu plus habile et plus prudent que mes contemporains à qui on mettait des bourrelets et qu'on tenait des accidents. Nous avons passé notre temps assez gaiement, mais pas trop intellectuellement, à jouer des vaudevilles et des charades. Vous qui savez le peu de goût que j'ai pour la pédanterie, vous ne m'accuserez pas de dénigrement quand je vous dirai qu'à mon avis, on est trop peu littéraire à la cour. Il me semble que, dût-on s'ennuyer parfois, il faudrait tâcher d'imaginer de temps en temps des amusements d'un ordre plus relevé. Le premier Napoléon se faisait faire des lectures et faisait jouer des pièces classiques. À présent, on aime trop les farces et les mélodrames.
Les expositions universelles de 1855 et surtout celles de 1867 marquent l'apogée du Second Empire. C'est en 1867 que sur un livret de Henri Meillac et de Ludovic Halévy, le compositeur Jacques Offenbach écrit « La Grande Duchesse de Gerolstein », interprétée par la cantatrice Hortense Schneider, qui, à l'exposition universelle, entra avec ce titre par la porte réservée au souverain.
J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur uniforme coquet, leur moustache et leur plumet. J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur uniforme coquet.
L'académicien Lacour-Gaillet raconte.
Dans les cérémonies officielles d'apparat, la souveraine jouait à merveille son rôle d'impératrice des Français. Le 15 mai 1855, en pleine guerre de Crimée, eut lieu l'ouverture de l'exposition universelle, qui avait été installée dans le Palais de l'Industrie, à la place actuelle du Grand et du Petit Palais. Quand le cortège impérial fit son entrée, l'impératrice en grande toilette, un magnifique diadème de diamants sur les cheveux, parut plus que jamais dans tout l'éclat de sa beauté. Elle visita l'ensemble de l'exposition. Au cours de la visite, le cortège se désagrégea et à la sortie, l'impératrice reçut sa pelisse comme à une sortie de théâtre, au milieu de beaucoup de désordre. 1867 est restée l'année par excellence de cette vie inimitable qu'on a appelée la fête impériale. Le 1er avril, une nouvelle exposition universelle s'était ouverte au Champ de Mars. Les produits de tous les pays du monde s'y trouvaient réunis, suivant un système fort ingénieux de 2 axes, l'un pour les pays d'après des courbes parallèles, l'autre pour les produits d'après des rayons. La France, l'Europe, la terre entière accoururent à cette foire gigantesque. Son succès extraordinaire fit bientôt oublier au gouvernement la journée de Sadowa qui remontait à 1 an, l'affaire du Luxembourg qui s'était terminée au mois de mai, tant bien que mal. Le 19 juin, l'empereur du Mexique Maximilien était fusillé à Querétaro. La responsabilité de l'empereur, même de l'impératrice, était lourdement engagée dans cette tragédie. Mais bien vite, on n'y pensa plus. Il y avait tant d'hôtes à recevoir au nom de la France, tant d'hôtes illustres, le prince royal de la Prusse, le tsar Alexandre II, le roi de Prusse, Bismarck, le sultan, l'empereur François-Joseph. Pendant tout l'été, l'impératrice fut en service commandé. Elle s'en acquitta à merveille. Le 6 juin, une grande revue fut passée à Longchamp, en l'honneur d'Alexandre II et de Guillaume Ier. L'impératrice avait dans sa voiture le roi de Prusse. Dans la confusion du retour, elle apprit seulement aux Tuileries que le tsar, qui était avec l'empereur, avait été l'objet d'une tentative d'assassinat. Sur le champ, elle se fit conduire à l'Élysée, qui était la résidence d'Alexandre. Il parlait de repartir tout de suite pour la Russie. Elle le décida à ne rien changer au programme officiel qui avait été arrêté et publié. Le soir, bal à l'hôtel de ville. Le lendemain, excursion à Fontainebleau. À l'hôtel de ville, elle traversa les salons au bras du tsar, sans la moindre gêne. De la gare de Fontainebleau au château, elle fit placer sur la voiture l'empereur de Russie entre elle et Napoléon III. Car la police avait eu vent qu'un autre Berezovski voulait recommencer l'attentat de la veille. Sous divers prétextes, et sans que le tsar ait su qu'il était menacé d'un nouveau danger, elle le retint toute la journée à l'intérieur du château. Il y a tant de collections et de curiosités à montrer à un invité qui a fait le voyage de Pétersbourg à Paris. Jusqu'à la dernière minute, la souveraine se fit le garde du corps de son hôte.
Eugénie se préoccupait de la condition féminine. Le peintre animalier Rosa Bonheur est la première artiste féminine à recevoir la Légion d'honneur des mains de l'impératrice en 1865. En 1861, Julie-Victoire d'Aubier fut la première bachelière. Lors de l'exposition universelle de 1867, l'impératrice lui remit la médaille de bronze pour la renommée de son œuvre de journaliste. Eugénie s'intéressait aussi aux pauvres gens. L'académicien Lacour Gaillet le confirme.
Tout ce qui touchait à la situation des pauvres gens, des malheureux, des travailleurs, causait en elle une émotion sincère. Un jour, à Farnborough, elle disait à un visiteur
« Savez-vous que de notre temps, l'empereur et moi, nous étions les deux seuls vrais socialistes de France ?»
La parfaite à l'exagération, on doit reconnaître que le socialisme de l'impératrice eut, pendant toute la durée du règne, le caractère d'une charité agissante et pratique. Au moment de son mariage, la commission municipale de Paris avait voté un crédit de 600 000 francs pour lui offrir une parure de diamant. La future impératrice s'empressa d'écrire au préfet de la Seine la lettre qui suit.
« Monsieur le préfet, je suis bien touchée d'apprendre la généreuse décision du conseil municipal de Paris qui manifeste ainsi son adhésion sympathique à l'union que l'empereur contracte. J'éprouve néanmoins un sentiment pénible en pensant que le premier acte public qui s'attache à mon nom au moment du mariage soit une dépense considérable pour la ville de Paris. Permettez-moi donc de ne pas accepter votre don, quelque flatteur qu'il soit pour moi. Vous me rendrez plus heureuse en employant en charité la somme que vous avez fixée pour l'achat de la parure que le conseil municipal voulait m'offrir. Je désire que mon mariage ne soit l'occasion d'aucune charge nouvelle pour le pays auquel j'appartiens désormais. Et la seule chose que j'ambitionne, c'est de partager avec l'empereur l'amour et l'estime du peuple français. Je vous prie, monsieur le préfet, d'exprimer à votre conseil toute ma reconnaissance et de recevoir pour vous l'assurance de mes sentiments distingués. Eugénie, comtesse de Thébat. Palais de l'Élysée, le 26 janvier 1853.
La commission municipale, en réponse à cette lettre, décida d'affecter les 600 000 francs à la fondation d'un établissement pour l'éducation professionnelle des jeunes filles pauvres. L'établissement porterait le nom de l'impératrice et serait placé sous sa protection. Les fondations charitables, inspirées et patronnées par l'impératrice, forment une liste dont la longueur et la variété sont à l'honneur de la souveraine. Patronage des sociétés de charité maternelle pour donner des secours aux femmes en couche. Fondation de lits pour les incurables. Création à Dieppe de la Société de Notre-Dame de Bon Secours pour les marins vieux et infirmes. Création à Paris, dans le faubourg Saint-Antoine, d'un second hôpital d'enfants. Patronage des crèches et des salles d'asile. Fondation aux aubonnes de l'asile Sainte-Eugénie pour les militaires et malades pauvres fréquentant cette station. Fondation de la Société des prêts de l'enfance au travail, dite Société du Prince Impérial, qui groupait les enfants en association pour donner des secours aux travailleurs. Création et patronage de la Société centrale de sauvetage des naufragés. Patronage de 8 établissements de bienfaisance. La Maison de Charenton, l'Institut des jeunes aveugles, l'Institut des sourds-muets de Paris, l'Institut des sourdes-muettes de Bordeaux, l'Institut des sourdes-muettes de Chambéry, l'Hospice du Mont-Genèvre, l'Asile de convalescence de Vincennes, l'Asile de convalescence du Vésinet. Don aux Hospices de Lyon du Château de Longchêne pour un asile de convalescence. Ouverture de l'hôpital Napoléon à Berck-sur-Mer pour le traitement des enfants scrofuleux. Napoléon Ier avait fait de sa mère la protectrice de tous les établissements de bienfaisance et de charité de l'Empire français. C'est une surintendance du même genre qu'exerça pendant 17 ans la femme de Napoléon III. Toutes ses œuvres de charité sociale lui inspiraient une légitime fierté.
C'est là qu'est l'honneur du règne.
Cette bienfaisance de caractère administratif était comme une institution d'État, très efficace d'ailleurs pour ceux qui étaient appelés à en jouir. Mais l'impératrice payait elle-même de sa personne quand il s'agissait de venir en aide aux malheureux. Il lui arriva à maintes reprises, dès qu'une grande infortune lui avait été signalée, de se rendre, comme une dame de charité, dans les taudis des familles miséreuses. Pour ne point se faire reconnaître, elle s'habillait en vieille dame. Elle prenait des lunettes, un grand chapeau, un voile épais. Ses deux nièces, dans une tenue analogue, l'accompagnaient. Les malheureux ne savaient pas qui était cette dame âgée, dont la visite, les bonnes paroles, les remèdes, un secours d'argent, leur avaient apporté quelques moments de réconfort. Elle voulait que son fils connût lui-même la misère de visu, qu'on le menât dans les logis des quartiers excentriques. Elle disait à son précepteur
« Il ne sait pas ce que c'est que la misère. » Il croit probablement que les pauvres sont des gens qui n'ont pas de voiture. Il faut absolument qu'ils comprennent, qu'ils se rendent compte, qu'ils écoutent les récits de ces malheureux, dans lesquels il y a beaucoup de mensonges, mais encore plus de vérité. Il faut qu'ils connaissent les affreux logis. Sans air et sans pain, où le bonheur est impossible, il ne peut pas régner s'il n'a pas vu cela.
À deux reprises, en 1865 et en 1866, une épidémie de choléra ravagea Paris et plusieurs villes de la France du Nord. L'empereur était allé visiter les colériques de l'Hôtel-Dieu sans en avoir prévenu l'impératrice, qui n'en fut informée qu'à son retour. Bien qu'elle fût souffrante elle-même, elle décida de faire en personne cette visite. Accompagnée de son écuyer, de son officier d'ordonnance et de sa lectrice, elle se rendit le 23 octobre 1865 à l'hôpital Beaujon, à l'hôpital Lariboisière et à l'hôpital Saint-Antoine. S'arrêtant au chevet des malades et des agonisants, elle prodiguait les mots d'espoir que lui inspirait son immense pitié. « Oui, ma sœur, lui dit un malade. « Mon ami, lui répondit la sœur de charité, ce n'est pas moi qui vous parle, c'est l'impératrice. » L'impératrice interrompit vivement.
« Ne le reprenez pas, c'est le plus beau nom qu'il puisse me donner. »
En 1866, pour la même cause, l'impératrice alla visiter les hôpitaux d'Amiens. Son indifférence à l'égard du danger, son mépris de la contagion quand elle tendait la main aux colériques, firent en France et à l'étranger une impression profonde. Des femmes allemandes lui envoyèrent une adresse où elles exprimaient leur admiration. Depuis l'immortel voyage d'Amiens, disait-elle, le nom de l'impératrice Eugénie est le symbole de la grande charité chrétienne. À son retour à Paris, une foule immense l'attendait pour l'acclamer. Le maréchal Vaillant lui exprima l'admiration de tous.
« Monsieur le maréchal, c'est notre manière d'aller au feu. »
Monseigneur Boer, un prélat qui eut son heure de célébrité, prêchant en 1867 la station de Carême aux Tuileries, rappela le geste d'Amiens. « Ce courage, s'écria-t-il, plus difficile et plus rare que celui des batailles, révèle quelque chose de viril, j'allais dire de chevaleresque, dans le cœur d'une femme. » Peu de temps après le voyage d'Amiens, l'impératrice, accompagnée du prince impérial, était allée visiter Nancy. Elle représentait l'empereur au fête du 100e anniversaire de la réunion de la Lorraine à la France. Les ovations qui l'accueillirent furent extraordinaires. Chacun dans la foule voulait s'approcher d'elle, toucher ou baiser un bout de ses vêtements, comme on eût fait des reliques d'une sainte. Un journal de propagande impérialiste, le 10 décembre, publiait dans son premier numéro du 15 novembre 1868 un long portrait de l'impératrice. L'article, signé du nom de A. Grenier, était de l'empereur lui-même. On y lisait ceci. « La comtesse de Thébas n'a pas disparu sous l'éclat de la couronne de France. L'impératrice est restée, avec distinction, une femme de goût simple et naturel. Après sa visite au colérique d'Amiens, rien ne parut la surprendre, comme le murmure approbateur qui vint de toutes parts applaudir sa courageuse initiative. Elle avait fini par en être excédée. Le sort des classes malheureuses, surtout, éveille constamment son intérêt. Elle aime à s'occuper de ce qu'on appelle aujourd'hui les œuvres sociales. On sait avec quelle efficacité active elle est intervenue dans la réorganisation des prisons d'enfants, dans l'œuvre des sociétés de sauvetage, dans le régime des établissements de bienfaisance. Elle a fondé la Société des prêts de l'enfance au travail. Que de généreuses réformes elle poursuit encore, avec une merveilleuse persévérance. On retrouve toujours un peu chez elle la jeune phalanstérienne. La condition des femmes la préoccupe singulièrement. Ce surnom de phalanstérienne que rappelait l'empereur avait été donné, avant son mariage, à Eugénie de Montiro par ses amis de Madrid, à une époque où la jeune fille s'était plongée avec passion dans les écrits de Fourier et où la théorie du phalanstère lui était apparue comme l'évangile d'une organisation nouvelle de la société.
C'est ainsi que s'achève le premier volet de cette émission « Les académiciens racontent l'histoire » de l'impératrice Eugénie.
Nous vous remercions de votre écoute, de votre fidélité. Vous retrouverez l'impératrice Eugénie dans les programmes de Canal Académie au mois de mars prochain.
Lui dit-il en partant que je